Chapitre 29. Nietzsche traversait la forêt au pas de charge, Bannon sur les talons. « Ne t'inquiète pas, magicienne. J'ouvre l'œil et le bon. Une femme seule sur une piste isolée pourrait s'attirer des ennuis, mais en nous voyant, Solide et moi, tout ruffian y réfléchira à deux fois avant de t'attaquer. » Nietzsche se retourna, l'air glacial. « Tu as vu ce que je peux faire, non? Doutes-tu de mes aptitudes face au danger ?» Moi, je connais tes pouvoirs, mais quelqu'un d'autre. Ma présence est un bon moyen d'éviter les ennuis. La meilleure façon de se tirer d'une situation délicate, c'est de ne pas s'y fourrer. » Bannon baissa la voix. C'est toi qui m'as appris ça dans cette ruelle à Tanimura. Exact, concéda Nietzsche. Ne m'oblige pas à te sauver une nouvelle fois. J'éviterai, c'est promis. Ne promets rien, Bannon. Le destin a l'art de nous forcer à ne pas tenir parole. « Avais-tu juré à Yann de ne jamais l'abandonner, de tout faire pour le secourir en cas de danger ?» Bannon blêmit mais continua à marcher près de la magicienne. « Je n'avais pas le choix. Je n'aurais rien pu faire. T'ai-je accusé? Ai-je parlé de choix? Si tu lui as fait une de ces promesses, tu n'as pas pu la tenir. » Le jeune homme prit le temps de peser ses mots. « Tu sais que mon enfance était moins parfaite que je l'aurais voulu. » Ça ne signifie pas que je doive renoncer à avoir mieux un jour. » Bannon s'écarta pour éviter une branche basse. Après une esquive agile, Nietzsche continua son chemin. « Et toi, magicienne, comment était ton enfance? Quelqu'un a dû te faire beaucoup de mal pour que tu sois si dure. Ton père ?» Nietzsche s'arrêta net. Avant de s'en apercevoir, Bannon fit 5 ou 6 pas de plus, puis il s'immobilisa et se retourna. « Non, mon père ne m'a pas maltraité. En réalité, il était plutôt gentil. Fabricant d'armure de son état, il était très connu. Il m'a appris à identifier les constellations. J'ai grandi dans un endroit plutôt paisible, jusqu'à l'arrivée de l'ordre impérial. » Nietzsche dit enfin à haute voix ce qu'elle savait depuis longtemps. C'est ma mère qui a pourri mon enfance. Elle m'enseignait la vérité, présentant mon père comme un monstre et un oppresseur du peuple. L'ordre impérial a conforté ses idées folles. Sans se soucier que Bannon suive ou non, la magicienne repartit au pas de charge. « Elle m'a fait vivre dans un endroit horrible où j'étais infesté de poux. Pour mon bien, disait-elle, afin de me forger le caractère, de me faire comprendre. » Nietzsche ricana. « Aujourd'hui, je la déteste, mais il m'a fallu 150 ans pour saisir. »« 150 ans? C'est impossible, tu ne... J'ai plus de 180 ans, jeune homme. Donc tu es immortel ?» Désormais, je vieillis normalement, mais j'ai encore du temps devant moi et je compte en profiter pour faire de grandes choses. Pareil pour moi. Nathan et toi, je vous accompagnerai et je vous aiderai. Tu verras, je ferai mes preuves. » Nietzsche ne daigna pas tourner la tête vers son compagnon. Tu peux rester si tu ne deviens pas un boulet. Ça n'arrivera pas, c'est promis. Mesurant sa gaffe, Bannon rectifia le tir. Non, je ne promets rien. Mais je ferai de mon mieux pour ne plus jamais être un boulet. Et si ça arrive, tu t'en apercevras? Oui, j'en suis certain. Nietzsche fut surprise par tant de confiance. Et comment le sauras-tu? Parce que tu me le diras sans ambiguïté possible. Devant tant de sérieux, Nietzsche n'insista pas. Même si la piste très large avait dû être jadis fréquentée, les chaînes et les trembles tombés en travers n'étaient plus déblayés depuis longtemps, et il fallait souvent les contourner ou les escalader. S'il y avait une ville devant les voyageurs, ses habitants ne devaient pas s'aventurer beaucoup par ici. Jusque-là, Nietzsche n'avait pas vu de signe de vie, plus que probablement Bannon et elle allaient devoir camper dans la forêt. « Crois-tu que quelqu'un mène la vie parfaite que j'imagine ?» demanda soudain le jeune homme. « Selon toi, existe-t-il un endroit presque paradisiaque ?»« Oui, si on se le fabrique. » Quand les gens supportent des tyrans ou sont loyaux à des cultures qui les oppriment, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ne peut-il pas y avoir un pays en paix dont les citoyens soient simplement heureux? C'est un fantasme enfantin, Bannon. Pourtant, le Seigneur Ral essaie de bâtir un monde où les gens soient libres. S'ils veulent un pays en paix et heureux, à eux de le créer. C'est mon espoir, comprends-tu? La piste devint une route. Et la forêt céda la place à une prairie où se dressaient des habitations au milieu de champs délimités par des clôtures. En rondins, les fermes étaient coiffées d'un toit en bardeaux. Nous devons être à la périphérie de la ville, dit Bannon. Ce terrain déboisé, ces champs clôturés, tu dois avoir raison, mais on ne voit personne. La route, envahie de mauvaises herbes, était également un mauvais présage. En avançant, Nietzsche et Bannon passèrent devant des murs de pierre couverts de lierre et à demi écroulés. Quant aux champs, rien n'y poussait. Le secteur semblait abandonné. Dans un silence trop pesant pour être normal, Nietzsche s'inquiéta de plus en plus. Devant une ferme, des fleurs sauvages composaient un parterre naturel très inhabituel. « Ces champs sont à l'abandon ?» dit Bannon. « On ne les a plus labourés depuis longtemps ?» Aucun cultivateur de choux ne serait aussi négligent, et ces fleurs plantées il y a des années ont fini par tout envahir. Les nouvelles gagnent chaque fois du terrain et les oiseaux transportent les graines. À ce rythme-là, elles envahiront tout. Regarde aussi ce jardin potager. Personne ne s'en occupe. « Cette ferme est abandonnée, » dit Nietzsche, « et toutes les autres aussi. Pourquoi ? La terre a l'air fertile, en tout cas elle est d'un noir très sain. » Entendant un bruit étrange, Nietzsche se retourna, prêt à déchaîner sa magie. Mais ce n'était que le bêlement de deux chèvres, l'une grise et l'autre blanche, attirées par le son de voix humaines. « Bonjour, vous deux !» lança Bannon en souriant. Les chèvres approchèrent et se laissèrent tapoter la tête. « On dirait que vous mangez à votre faim ?» Interloqué, Nietzsche interrogea le jeune homme du regard. « En liberté, les chèvres dévastent les jardins potagers. » Ma mère ne les laissait jamais approcher de chez nous. » Les deux voyageurs avancèrent jusqu'à une habitation dont le toit manquait. Devant, une charrette renversée, une roue cassée, gisait dans la poussière. « Personne ne vit ici, » dit Nietzsche. « C'est évident, non ?» Sur le côté de la ferme, la magicienne et le jeune homme firent une découverte inattendue. Deux statues en taille réelle. Un homme et une femme, vêtus comme des paysans. Sur leur visage, on lisait un désespoir sans fond. Les yeux levés au ciel, l'homme poussait un cri de souffrance. Penché en avant, la femme se tenait la tête comme si elle pleurait ou, dans sa misère, voulait s'arracher les cheveux. Bannon ouvrit de grands yeux effarés. Nietzsche se souvint des statues que Jagang et le frère Naref faisaient fabriquer à Alter Rang, forçant les sculpteurs à représenter la laideur et la corruption de l'humanité au lieu de sa grandeur. Le but était d'exprimer l'horreur la plus absolue. Comme ici. L'œuvre d'un disciple de Naref. À Alter Rang, quand Nietzsche vivait avec lui, Richard travaillait comme tailleur de pierre. En secret, il avait réalisé une statue qui symbolisait la résilience de l'esprit humain. Cette œuvre d'art avait provoqué la métamorphose de Nietzsche. Un changement irréversible. La fin de son existence de maîtresse de la mort et de sœur de l'obscurité. L'auteur de ces statues n'avait à l'évidence pas fait la même expérience. « Trouvons une autre ferme, » dit Bannon. « Je n'aime pas ces sculptures. Qui voudrait des horreurs pareilles chez soi ?»« Quelqu'un qui ne partage pas ta vision idyllique du monde, je suppose. »